En 2022, l'URSSAF, chargée de collecter les cotisations sociales, a redressé 38 millions d'euros au titre de la lutte contre le travail au noir. Un chiffre en hausse depuis quelques années, puisqu'il était de 17 millions il y a 5 ans. L'URSSAF est en première ligne dans la lutte contre le travail dissimulé. Son directeur pour la région Midi-Pyrénées est notre invité ce matin. Bonjour Jean Dauquelard.
Bonjour.
Avant de comprendre comment l'URSSAF est parvenue à accentuer sa lutte contre le travail au noir, faisons un point, si vous voulez bien, sur la nécessité de collecter ces cotisations sociales des entreprises. À quoi servent-elles exactement ?
Alors, les cotisations de sécurité sociale servent justement à financer le modèle de protection sociale et de sécurité sociale à la française, qui permet de, grâce à ces cotisations, c'est important de le rappeler parce que souvent on oublie la finalité de ces cotisations.
Exactement.
Qui permet justement de financer des cotisations, les prestations maladie, dont on a vu que c'était bien utile hein, ces derniers temps.
Pendant la crise sanitaire.
Pendant toute la crise sanitaire, voilà, tout le système de santé a continué à fonctionner, mais il faut le financer. Ça permet de financer aussi tout ce qui est retraite, sujet d'actualité. Ça permet aussi de financer tout ce qui est allocation familiale ou minima sociaux. Donc un système de protection sociale dont on voit bien qu'il est extrêmement protecteur pour les citoyens, mais comme tout système, il convient de le financer.
Et puis un système qui encourage la solidarité entre les uns et les autres.
Vous avez raison de le rappeler, c'est un système qui est fondé sur la solidarité et l'entraide. Et les cotisations des uns servent à financer les besoins des autres, voilà, d'où le phénomène contre lequel nous luttons, que moi je qualifie toujours de phénomène de passager clandestin, qui est celui qui profite d'un système sans jamais y contribuer, ce qui n'est jamais très sain pour l'avenir du système.
Oui, évidemment. Si je vous comprends bien, une cotisation non versée par l'employeur entraîne une précarité pour les travailleurs eux-mêmes.
Alors si on raisonne sur un employeur, en effet, la première atteinte et un des effets négatifs du travail dissimulé, ça concerne les droits du salarié eux-mêmes. Puisque en effet, ils n'ont pas les revenus qui vont avec, ils n'ont pas les droits qui vont avec, soit les droits à retraite, ils s'en rendront compte plus tard, mais même des droits sociaux auxquels ils pourraient avoir accès, et auxquels ils n'accèdent pas. Et encore là, on évoque une forme de travail dissimulé avec un minimum de régularité. Je ne vous parle pas après des certaines conditions qui sont proches de l'exploitation humaine. Et c'est encore un autre niveau d'impact sur les droits des salariés.
Ah oui, certainement. Il y a aussi un impact sur les entreprises, puisque entre celles qui jouent le jeu de déclarer les cotisations et puis celles qui ne le font pas, il y a aussi une forme de concurrence déloyale.
Clairement, c'est un de nos objectifs aussi de garantir cette concurrence loyale. Et dans le contexte actuel, qui est quand même un contexte de conjoncture économique qui n'est pas si évident que ça, c'est un vrai sujet, voilà, la concurrence déloyale. Et pour nous, c'est un enjeu très important, ça, de sécuriser cet aspect-là, puisque la nature humaine étant ainsi faite, si vous vous rendez compte que vous respectez la réglementation, que vous payez vos salariés ce qui convient, que vous payez bien tout ce qu'il faut à l'État, et que vous perdez des marchés au profit d'entreprises qui ne respectent pas le jeu, il y a le risque que votre côté honnête soit légèrement altéré. Je le dis avec un peu d'humour, mais il y a le risque que
oui, la tentation
pas à rester
est grande.
Donc pour nous, c'est un enjeu extrêmement fort. Actuellement, en France, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'essentiel des chefs d'entreprise sont honnêtes et jouent le jeu. Il faut quand même insister là-dessus. L'essentiel, quand même, des entreprises jouent le jeu. Par contre, si on veut que ça continue et que la majorité des entreprises continue à être citoyennes, il nous faut absolument traquer les fraudeurs et montrer que ceux qui fraudent se font prendre et sont sanctionnés.
Alors justement, nous allons parler de cette traque contre les fraudeurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, avant de nous expliquer les différents moyens que vous déployez à l'URSSAF, nous expliquer quelles sont les entreprises ou les entrepreneurs qui ont tendance à frauder un peu ?
C'est compliqué à définir, parce que c'est un phénomène qui est assez généralisé. Hein. Au niveau national, il y a des études, alors c'est toujours très compliqué le travail dissimulé par définition, mais les études montrent qu'il y a entre 6 ou 7 milliards de cotisations par an qui sont éludées à cause de cette fraude. Donc pour vous montrer que c'est quelque chose qui irrigue, on va dire, l'ensemble du système économique français. Après, on a toujours les mêmes secteurs d'activité hein, qui sortent, mais je suis toujours gêné de les mettre en avant, parce que, alors sans surprise, hein, c'est bâtiment, tout ce qui est transport, sécurité, etc. Mais c'est pas pour autant que ce sont des secteurs qu'il faut pointer du doigt et stigmatiser, parce que, par exemple, je prends souvent l'exemple du bâtiment, du transport, mais ce sont des secteurs qui ont vraiment progressé dans la lutte contre la fraude, où il y a une volonté, notamment des syndicats patronaux, de nous aider pour réguler le secteur. Donc, on parle toujours des mêmes secteurs, mais ça me paraît pas juste parce que certains secteurs font vraiment des efforts. Voilà. Mmh. Et puis pour être plus complet, quand je dis que ça irrigue vraiment toute la société, vous le savez peut-être, mais en France actuellement, il y a beaucoup de créations d'entreprises se font sous un statut qui s'appelle la micro-entreprise.
Oui.
Les auto-entrepreneurs ou les micro-entrepreneurs. Et on se rend compte en faisant des contrôles ciblés sur ce statut-là, qui a un taux d'évasion aussi assez élevé. Donc là, pour vous montrer que ça touche tout type d'entreprise, quelle que soit la taille, du micro-entrepreneur à l'entreprise importante, et ça peut toucher tous les secteurs.
D'accord. Recouvrir 38 millions d'euros en un an, c'est quand même pas rien. Quels ont été vos différents moyens d'action pour y parvenir?
Alors, comme vous l'indiquez, c'est une vraie progression. Hein. Il y a 5 ans, on était à 17 millions, là on est passé à 38. Voilà, sachant que c'est une tendance nationale, donc nous redressons beaucoup plus qu'il y a quelques années. Alors les leviers, il y en a plusieurs, il y en a trois principalement. Le premier, il est en termes de moyens. Le deuxième est humain.
De moyens humains, vous voulez dire ?
Pour vous donner une idée, l'URSSAF Midi-Pyrénées, il y a une centaine d'inspecteurs qui peuvent faire de la lutte contre la fraude. Et derrière, il y a une brigade spécialisée d'une vingtaine d'agents. Donc avec des inspecteurs, avec des contrôleurs, avec des pénalistes, ça, mais c'est vraiment très particulier la lutte contre la fraude. Et ce qui fait que vous avez une brigade qui est répartie sur l'ensemble du territoire de 20 personnes à temps plein. Voilà. Et ça c'est clairement c'est une brigade qui est récente, et ça c'est clairement des effets de levier qui nous a permis d'atteindre ces résultats, d'avoir des équipes plus nombreuses et plus spécialisées.
Et comment concrètement elle travaille cette brigade ?
Alors elle travaille, c'est là le deuxième levier, avec des outils qui ont bien progressé. On n'est plus comme il y a 10 ans où en fait on avait des dénonciations ou des bouche à oreille. Ça arrive de moins en moins. Ça arrive toujours.
C'est dans les films, ça.
Ouais, ça c'est dans les films. C'était vrai il y a quelques années. Hein. Mais c'est de moins en moins vrai. Maintenant, nous travaillons beaucoup plus. Alors je suis désolé de parler anglais. Moi, étant basque, c'est un peu particulier, mais de plus en plus avec du data mining, avec des croisements de fichiers, et donc de plus en plus nous avons des croisements de données qui nous permettent de cibler des entreprises ou des secteurs qui nous permettent d'être un peu plus efficaces.
Donc voilà. Par exemple, avec la direction des finances, vous croisez les impôts.
Exactement,
notamment.
Et nous croisons de plus en plus avec les partenaires. Et c'est le troisième levier, justement, qui, à mon avis, est l'explication majeure de ces résultats. C'est que nous ne travaillons quasiment jamais seuls dans la lutte contre la fraude. C'est du partenariat avec la police, avec la gendarmerie, avec l'inspection du travail, avec le fisc. Et tout le monde croise les infos, tout le monde donne ses infos, et du coup ça permet d'être bien plus efficace. Et plutôt que de s'éparpiller, d'aller de manière beaucoup plus ciblée sur les entreprises que l'on vise. Voilà.
Oui, c'est ça.
Et donc le partenariat, c'est vraiment majeur.
C'est vraiment majeur. Oui. Et le travail des inspecteurs, vous en avez parlé au tout début, de un des premiers moyens. Est-ce que ce sont ces personnes qui vont directement dans les entreprises et qui font aussi peut-être un travail d'accompagnement des entreprises, ou est-ce qu'il y a encore le chapeau du gendarme et le bâton qui fait peur ?
Ça dépend en fait le rôle dans lequel on va. Si on va sur un contrôle d'une entreprise citoyenne, c'est un contrôle normal, on veut juste s'assurer que l'entreprise respecte la réglementation. Et là, la crise nous a aidés à continuer à changer d'attitude. Là, nous y allons vraiment avec le principe d'accompagner. Nous savons très bien que le droit social en France est complexe. Un chef d'entreprise peut se tromper de bonne foi. Donc là, l'idée, c'est de l'accompagner. C'est tout le principe de droit à l'erreur, de compréhension. Donc ça n'empêche pas parfois de redresser quand il y a vraiment une erreur. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner. Voilà. Les autres cas qu'on évoque quand il y a de la fraude, là, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Là, l'idée, c'est pas d'accompagner. On est face à quelqu'un qui intentionnellement a fraudé. Donc là, l'idée, c'est de rétablir les droits et surtout d'arrêter les dégâts. Donc pas du tout la même approche, vous voyez. Ce qui explique pourquoi ce ne sont pas les mêmes. Chez nous, ce ne sont pas les mêmes équipes qui font ce travail. La vingtaine d'agents que je vous évoquais...
De la brigade...
La brigade, elle, ne fait que de la lutte contre la fraude.
D'accord. Avec ce fameux outil de croiser des fichiers avec les différents services que vous évoquiez.
Voilà, ce qui n'empêche pas aussi d'aller de temps en temps de manière aléatoire sur des chantiers ou des événements, ce qui n'empêche pas d'écouter les plaintes des salariés qui sont quand même souvent de très bonnes sources d'informations.
Hein. Oui,
donc nous multiplions les sources d'informations, mais là où avant en fait nous étions un peu dépendants d'informations qu'on voulait nous donner, en fait maintenant avec le croisement des données on y va, c'est nous qui sommes actifs.
D'accord. L'URSSAF dispose aussi de nouveaux moyens juridiques pour lutter contre le travail dissimulé. Quels sont-ils ?
Oui, là aussi, depuis quelques années, le législateur a renforcé nos moyens juridiques. Notamment, je vous en suis cité deux. Un qui s'appelle la solidarité financière, qui est souvent mis en œuvre, par exemple, dans le bâtiment. Dans le bâtiment, vous tombez souvent sur des cascades de sous-traitants. Et vous tombez généralement sur le sous-traitant de rang 8, je prends un exemple un peu extrême, mais qui lui, en fait, est moyennement solvable, mais qui lui dépend d'un donneur d'ordre. Et en fait, avec la solidarité financière, si vous arrivez à remonter le donneur d'ordre initial, qui lui est souvent une entreprise
solvable
sérieuse, et qui a pignon sur rue, voilà. Et donc, si l'entreprise a obligation de vérifier par des attestations de vigilance que son sous-traitant.
Elle se porte garante, en fait.
Exactement, se porte garant, elle doit faire vigilance que son sous-traitant remplissait bien les conditions sociales. Et si ce n'est pas le cas, ben nous avons la possibilité de remonter ce que nous appelons la solidarité financière, c'est-à-dire que nous demandons les sommes éludées en fait aux donneurs d'ordre. Voilà. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années et qui est assez efficace, notamment dans le bâtiment ou dans d'autres secteurs d'activité.
Oui, c'est une sacrée responsabilité parce que ça veut dire qu'il faut choisir son sous-traitant avec beaucoup de soin. Et parfois, quand on est l'entreprise, comme vous dites, à la tête, on ne maîtrise pas forcément ce qui se passe au huitième échelon.
Ben justement, c'est la règle du jeu de demander à celui qui est donneur d'ordre initial de s'assurer que les cascades en dessous respectent les réglementations. C'est un moyen de responsabiliser tout le monde. Parce qu'il y a quelques années, ce qui se passait, c'est que le donneur d'ordre initial expliquait justement ça. Expliquait qu'il y était pour rien, il était innocent comme une brebis pure, et on ne pouvait rien faire, alors que de facto, tout le monde est responsable dans cette chaîne-là.
D'accord. Alors, malgré tout, c'est un autre moyen juridique dont vous voulez
parler. Un autre exemple, c'est sur les micro-entrepreneurs. Je vais vous prendre un exemple. L'année dernière, nous avons fait un plan de contrôle ciblé, par exemple, sur les agences immobilières. C'est assez intéressant, parce qu'actuellement,
il y
en a beaucoup, et beaucoup sont micro-entrepreneurs. Et on s'était rendu compte qu'il y avait un taux d'évasion assez élevé de 40% à peu près
de
cotisations qui nous échappaient. Et ça, nous avons pu le voir grâce à un levier juridique que nous a donné le législateur il y a peu de temps, qui est le droit de communication bancaire. C'est-à-dire entre ce que nous déclare le micro-entrepreneur et ce que nous pouvons avoir, nous, en accédant au compte bancaire, c'est là où nous repérions les décalages. Et après, ça permettait de demander au micro-entrepreneur de nous expliquer d'où venaient les légers décalages que nous avions aperçus. Si nous n'avions pas cet outil-là, honnêtement, on ne verrait pas.
D'accord. Donc, vous êtes un peu l'œil de Moscou, si on...
Ça nous permet d'aller vérifier, dans des cas de fraude, justement, des éléments et de démontrer le côté intentionnel de la fraude. Mm-hmm. Mais encore une fois, c'est très ciblé sur des cas de fraude. Et j'insiste, l'essentiel des entreprises joue le jeu. Donc, les entreprises qui jouent le jeu, notre but, ce n'est pas de leur casser les pieds. Au contraire. C'est de les aider, et un moyen de les aider, c'est aussi de réguler.
Oui, parce que comme vous parliez au tout début de notre entretien de la crise sanitaire, vous avez eu, l'URSSAF a quand même eu une grande mission d'accompagnement des entreprises, et vous essayez quand même de rester dans cet état d'esprit de bienveillance et d'explication de la loi aussi.
Non, c'est exactement ça. Nous avions commencé cette tendance avant, mais la crise nous a amené à accentuer cette... Ce phénomène, comme quoi les crises ont des côtés positifs aussi, et c'est quelque chose que nous allons continuer, ça, pour les entreprises qui jouent le jeu, d'être plus dans la compréhension, d'être plus dans l'écoute, dans l'accompagnement, et on en aura besoin, parce qu'on le voit, pour l'instant, les indices économiques sont plutôt bien orientés, mais l'URSSAF est un formidable observatoire économique, hein, j'en profite pour le dire, entre les intentions d'embauche, les déclarations de revenus, les cotisations, les salaires, c'est un très bel observatoire économique, et pour l'instant... Dans la région, on voit bien que l'économie est toujours bien orientée, mais nous commençons à voir de plus en plus de petits signaux faibles, des signaux d'alerte, voilà, que vous connaissez. On le voit bien, l'impact du prix d'énergie, les problèmes d'approvisionnement commencent à mettre en difficulté quelques structures et on commence à le détecter. Donc, pour nous, ce rôle d'accompagnement, il est prégnant déjà, mais il va l'être de plus en plus, et y compris dans les mois qui viennent, qui ne seront peut-être pas aussi faciles que ce qu'on pouvait imaginer.
Oui, bien sûr. Oui. Donc voilà, une lutte contre le travail dissimulé pour le bien de tous, un travail que réalise l'URSSAF. Merci beaucoup, Jean Dockeller, d'être venu nous en parler ce matin.
Merci de m'avoir invité.